Bonjour à tous et bienvenue dans votre cinquième numéro de RetroTaku, le JT du Retro Gaming. Comme tous les mois, vous retrouverez le dossier, le test, la rubrique console et le désormais célèbre RetroDico. Mais on commence tout de suite avec les news. Beaucoup de jeux japonais des années 80-90 ne connurent pas de traduction française ni même anglaise, et ce qui réserva bien sûr certaines perles vidéoludiques uniquement au public japonais. Certains fans, comme celui du jeu Unearth Fantasy Story, bien sûr réclament des traductions, et celui-ci vient de proposer $150 à qui voudra bien traduire son jeu préféré sorti sur PC Engine en 1995. La communauté de traducteurs est au travail, une bien belle initiative pour l'ensemble des joueurs. Allez, on continue tout de suite avec les news en images.
En 1983, le monde du jeu vidéo connut un premier crack. À cette époque, les jeux étaient programmés trop rapidement, mal finis et donc de piètre qualité. Cela entraîna un désintéressement du public et beaucoup crurent que les jeux vidéo disparaîtraient. E.T., sorti sur Atari 2600 cette année-là, fait partie de ces jeux mal finis et reste considéré comme l'un des pires jamais sortis. Malgré tout, un fan est en train de corriger E.T. pour le rendre meilleur et peut-être aimé de tous. Metroid 2 fait partie de ces jeux mythiques sortis sur la première Game Boy de Nintendo en 1992. Dans ce jeu, vous contrôlez une jeune femme du nom de Samus Aran devant se défaire des Metroid, organismes extraterrestres aux intentions malhonnêtes. Un remake fonctionnant sur PC est actuellement en cours, une démo est même téléchargeable sur le site officiel du développeur amateur. Michel Louvet est un programmeur lillois connu pour ses jeux ColecoVision sortis très récemment comme Pang, Puzzly, Starcom et Lock and Chase. C'est justement ce dernier titre, Lock and Chase, que Michel Louvet a développé pour la console 8-bit NEC PC Engine CD-ROM. Le CD de ce clone de Pac-Man est d'ailleurs fourni avec le fanzine Revival numéro 50 pour le prix de 31,50€. Autant la gravité est inévitable dans le monde réel, autant Pac-Man est tout aussi immanquable dans le monde des jeux vidéo. Combinez les deux et vous obtiendrez Not Pac-Man. Il faudra utiliser la gravité pour faire bouger la boule jaune. Cette combinaison avait déjà été testée avec Fizzman en juin 2012. Le tout est téléchargeable gratuitement sur le site officiel du développeur Maurice Guégan. Lode Runner est un jeu de plateforme et de réflexion sorti le 17 janvier 1983. Énorme succès au Japon, il fut adapté sur de nombreux supports. Dans ce jeu, vous devez ramasser des lingots d'or tout en évitant les ennemis. Pour fêter les 30 ans de cette référence du jeu vidéo, une nouvelle version de Lode Runner est téléchargeable sur iPhone, iPad et Android sous le nom de Lode Runner Classic. Happy Birthday Lode Runner! Les magazines de jeux vidéo comme Console Plus, Joypad, Player One étaient de vraies bibles pour les joueurs des années 80-90. L'avènement d'Internet a rendu la vie dure à ces revues et beaucoup se sont arrêtés. Heureusement, certains périodiques amateurs comme Retro Geek Mag sortent sur la toile. Le 7e opus est sorti tout récemment et est consultable gratuitement. Vous y trouverez des tests de jeux rétro comme Final Fantasy VII, des dossiers ou encore des interviews d'acteurs du monde du rétro gaming.
Excusez-moi, j'étais en train de dire oui, parce que ce mois-ci, nous testons Nord et Sud, un jeu tiré de la BD Les Tuniques Bleues du scénariste Raoul Covin et du dessinateur Willy Lambille, pas moins de 56 tomes quand même pour cette BD. Le jeu, lui, fut d'abord édité sur ordinateur, puis par Kemco sur NES. C'est cette version qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui dans le test du mois. Allez, je retourne à ma lecture.
Si le grand public aura surtout retenu les jeux Astérix et Tintin, c'est surtout les Tuniques Bleues, la bande dessinée de Raoul Covin, Salverius et Willy Lambille qui nous intéresse aujourd'hui, et qui fut un des premiers jeux de l'éditeur Infogrames. Après son immense succès sur ordinateur, les japonais de Kemco l'adaptèrent sur NES. Et si l'on ne reconnaît plus tellement les tronches de Blutch et Chesterfield, les héros de la BD, ils ont cependant gardé toute la saveur du jeu original. Déjà, nous sommes accueillis par Matthews B. Brady, ou plutôt son postérieur. Ou si l'on clique dessus... Voilà, c'est très rigolo. Et c'est une idée de Frédéric Reynal, ce machin. Oui, oui, ceci est la première décision prise par le type derrière Halo in the Dark et Little Big Adventure. Bref, nous pouvons choisir entre trois difficultés. Trois options, que j'en parlerai juste un poil plus tard, et on peut décider de jouer avec un ami, ou pas. Ou même de laisser l'ordinateur jouer tout seul. Mais bon, c'est pas très intéressant. On peut également choisir l'année du jeu, sachant qu'en fonction de l'année, il y a plus de troupes d'un côté ou pas. C'était le Fort Summer, pas le Fort Summer. Oui, parce que je ne vous ai sûrement pas dit, ou vous ne le saviez peut-être pas, mais on va retracer la guerre de sécession américaine en fait, et on peut jouer les sudistes ou les nordistes. Mais les deux équipes sont pareilles dans le jeu. Voici le jeu, il y a une carte approximative des USA, ici il y a un Mexicain qui peut nous buter un mec s'il a envie, là il y a un Indien qui peut buter un mec s'il a envie, et un nuage qui se déplace, eh bien, s'il a envie. Et le nuage nous bloque une troupe en fait. Voilà, le but du jeu étant de décimer le camp adverse. On peut se déplacer sur la map, voilà, je me suis déplacé sur la map, et si l'on contrôle toute une voie ferrée entre deux points, on gagne des sacs de pognon, vous permettant d'avoir un type en plus. Alors les types en fait, c'est des armées, et si l'on fout un type sur un autre, ça déclenche cette petite animation sympathique. Et un petit mode de bataille sympathique aussi, où les camps se fichent sur la tronche, où on peut tirer du canon, on peut envoyer notre cavalerie et utiliser nos fantassins. En fonction du champ de bataille, il y a également des petits décors bousillables, dont les ponts, et c'est assez rigolo de détruire le pont pendant qu'un convoi marchait dessus. Et puis c'est très rigolo de voir les chevaux. Oui. Et une fois un des deux camps décimé, on repasse sur la map. Voilà, c'est le jeu. Il y a aussi des lieux particuliers, par exemple si on attaque un de ces petits points là, nous attaquons en fait un fort, où le but est de traverser tout le fort dans un jeu de plateforme, tandis que l'ennemi nous envoie ses recrues. Le reste étant généré par la machine. En fait, le seul défaut du jeu vient de la durée des parties qui excède rarement un quart d'heure. Mais c'est fun, surtout à deux. Et je ne saurais que trop vous conseiller ce jeu aux fans de la BD et même aux joueurs qui n'y connaissent pas grand chose, mais veulent un très bon jeu sympa accessible. Sur ordinateur, sur NES ou même sur portable maintenant. Et pour un jeu infogramme, eh ben il est super facile en plus.
Dans le dossier du mois, nous sommes allés à la rencontre de développeurs homebrew, à savoir des concepteurs de jeux pour consoles rétro. Il s'agit de l'équipe d'Alice Dreams, rencontrée à la dernière Retro Gaming Convention, qui après le développement du jeu éponyme, nous présente Dynamic Dreams. On écoute le graphiste du jeu.
En fait, c'est une base de Bomberman, ça fait 4-5 ans qu'on est dessus. Et le but du jeu, c'est d'avoir vraiment des modes de jeu qui sont un peu uniques et originales. Et on a par exemple un mode cache-cache qui joue avec les VMU où un des joueurs doit regarder l'écran de sa manette pour rester planqué alors que les autres ne voient qu'une partie du jeu sur l'écran principal. On a du capture de flag, on a du calcul mental, enfin on a vraiment beaucoup de modes multijoueurs.
L'équipe a choisi de développer sur Dreamcast, une console ne nécessitant pas de gros investissements pour programmer et dont l'aspect arcade plaît particulièrement aux concepteurs du jeu. Les différentes évolutions ont été conditionnées en partie par les joueurs rencontrés dans les conventions, comme nous l'explique le développeur.
On a présenté notre jeu à diverses conventions. Aujourd'hui, la Retro Gaming Connection. On a été également à la Japan Expo. On a fait la PGR également. Et pour nous, c'est un moment privilégié parce qu'on va à la rencontre des joueurs. Ils nous donnent leur avis, ils nous donnent leur opinion. Et nous, année après année, ça nous a fait progresser. On se rend compte des forces et des faiblesses de ce qu'on développait. Et on a vraiment puisé dans tout ce que les personnes nous disaient. Et ce qui est formidable, c'est que cette année, par exemple, on avait amélioré la maniabilité du jeu. Et les personnes ont tout de suite senti et ont vraiment apprécié ces modifications.
Un projet amateur? Pas du tout. L'objectif final est bien de créer un produit de qualité.
Et le but à terme, c'est d'arriver à avoir un vrai produit fini qui soit pro et de s'éditer. Alors on passera peut-être par un éditeur ou on se débrouillera par nous-mêmes.
Retro Taku vous tiendra informé de la sortie, on l'espère, prochaine de Dynamic Dreams.
Avant la 3DS, il y eut la 3DO, une console très spécifique à bien des égards. Je vous propose de la découvrir ou de la redécouvrir dans notre rubrique console.
La 3DO, première console de la génération 32 bits, sortie en France en 1993, est en fait une licence qui a été vendue à divers constructeurs pour créer un standard. Des constructeurs comme Panasonic, Sanyo ou encore Goldstar ont donc fabriqué leur propre console basée sur cette technologie. Assez bizarrement, la 3DO ne dispose que d'un seul port manette en façade. Pour jouer en multijoueur, on doit donc utiliser le port manette situé sur la première manette et ainsi en connecter un maximum de 8 en cascade. A noter la présence sur la manette d'une prise casque avec un bouton de réglage du volume. Sa ludothèque contient de nombreuses reprises de jeux d'arcade comme Street Fighter 2X, Bust Move ou Samurai Shodown. Ce fut aussi l'une des premières consoles à accueillir des films interactifs,
comme Night Trap ou Dragon's Lair, ou même des simulations de jeux télévisés comme Twisted The Game Show. La société 3DO n'a jamais eu de contrôle sur le développement des jeux, si bien qu'un nombre impressionnant de mauvais jeux sortiront. Après seulement 2 années de commercialisation et la sortie de ses concurrentes, la 3DO a rapidement été oubliée de tous et la société 3DO se rabattra vers le développement de jeux PC.
On termine ce JT avec la désormais célèbre rubrique, le Rétrodico, qui vous propose tous les mois de découvrir un mot de l'univers du rétro gaming en 45 secondes. Ce mois-ci, c'est le mot Sprite. Pas la boisson, hein, mais bien la composante essentielle des graphismes d'un jeu vidéo.
Un sprite est un élément graphique d'un jeu vidéo qui peut se déplacer à l'écran, changer de taille ou même être fixe. Il peut être animé en affichant plusieurs images les unes à la suite des autres. On le distingue de l'image de fond et peut se situer au premier plan comme en arrière-plan. Il peut autant servir à afficher des personnages que des objets ou même des morceaux d'interface comme des barres de vie. Le sprite est donc un élément essentiel des jeux vidéo en 2 dimensions, mais peut également se retrouver dans les jeux en 3D. Oui, oui, certains effets utilisent encore des sprites, notamment les effets de particules, comme les flammes. Vous n'avez donc pas fini de consommer du sprite.
Et voilà, c'est la fin de votre JT du Rétro Gaming. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à jt@retrotaku.com si vous souhaitez nous faire part d'une news ou si vous souhaitez rejoindre l'équipe du JT. N'hésitez pas non plus à consulter notre site internet retrotaku.com ou notre page Facebook. Au mois prochain. Ciao.